En Italie, en Italie, en Allemagne, en Espagne.
Très bien.
En Italie aujourd'hui, peut-être. Ça va qu'il y a l'Union européenne qui permet de, on va dire, de solidifier tout ça et puis d'éviter les débordements. Mais bon, on va dire qu'elle est sous contrôle, l'Italie, pour l'instant.
Bien, merci pour ce cadrage. Oui, madame.
Oui, bonsoir. Oui, au risque de faire l'avocat du diable, a priori, on pourrait peut-être dire qu'un régime qui interdit toute forme d'expression, quelle qu'elle soit, qui censure à un moment donné, n'est déjà plus la démocratie.
Je veux bien vous laisser réagir, sinon je reprends la main. Mais... Oui, monsieur, oui.
Moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il s'est manifesté, mais c'est qu'il s'est manifesté de qualité.
Ce sont pas des... On les a pas interdits, c'est pas des groupuscules interdits. Ils doivent pouvoir s'exprimer, mais je trouve que dans la... On interdit le voile, on interdit telle chose de masquer, et puis là, d'un seul coup, on laisse les gens masqués défiler. C'est pas la majorité, mais il y en avait. Là, on devrait pouvoir cela les mettre de côté et puis enlever l'identité.
D'accord. Donc, c'est pas tant sur le principe même d'une manifestation qui serait celle d'un groupuscule qui remettrait en cause les valeurs de l'État de droit.
C'est pas interdit. Si on n'a pas dissous cet opuscule, bah, il est légal.
Mais précisément, là, la question, c'est est-ce qu'on peut cohabiter avec ce type de groupe politique, de rassemblement politique ?
En insère, le ministre de l'Intérieur a demandé à ses préfets d'interdire maintenant ces manifestations d'extrême droite. Voilà, c'est ce matin.
D'accord. Je ne suis pas au courant de toutes les suites de l'événement.
Je crois que c'est Churchill qui disait que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Et je pense peut-être que le principal problème, c'est comment s'exerce la démocratie. Personne ne contestera que la France est une démocratie, mais quand on voit ce qui s'est passé à la Chambre des députés, peut-on dire que l'exercice de la démocratie a brillé, ou est-ce que justement on atteint les limites de la démocratie quand il y a un certain comportement qui ne correspond plus du tout aux souhaits des gens?
Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler l'étymologie de démocratie, hein, demos, kratos. La démocratie, c'est le pouvoir, kratos, du peuple, par le peuple et pour le peuple, dit-on. Et précisément, si la démocratie, ce pouvoir dans lequel le peuple est souverain, dans lequel il peut exprimer des opinions, des courants de pensée, des valeurs, etc., de la façon la plus différenciée possible, et donc de la façon la plus discordante possible, alors il est évident que la conclusion, c'est qu'on doit pouvoir, en démocratie, exprimer publiquement des points de vue, des opinions différents, antagonistes. La démocratie, c'est l'organisation pacifique, dans un idéal, hein, c'est l'organisation pacifique et réglée par la raison et par le débat, c'est l'organisation pacifique et réglée du dissensus. S'il n'y a pas dissensus, dissensus, c'est le désaccord. C'est l'inverse du consensus. D'accord. S'il n'y a pas du dissensus, bah c'est le choix, c'est-à-dire qu'il y a du consensus. Soit ce consensus, il est spontané, on est tous d'accord, mais en fait, non, on n'est pas tous d'accord sur les orientations du bien commun. Soit ce consensus, il est forcé par la limite de liberté d'expression, ou alors ils sont forcés par la propagande, par des mesures autoritaires, illibérales ou limite totalitaires. Donc effectivement, si la démocratie, c'est bel et bien l'organisation ou l'expression du dissensus, de la façon pacifique et réglée, on va en débattre, alors toi tu es identitaire, toi tu ne l'es pas, etc. Bien sûr qu'on doit l'autoriser, bien sûr qu'on doit cohabiter, bien sûr qu'on doit tolérer toute forme d'expression aussi périlleuse et contestable soit-elle.
Mais ça dépend de la taille d'un pays, parce que la France, par exemple, 66 millions, 67 millions d'habitants, quand on compare à la Suisse, ils font beaucoup de référendums, parce que c'est quand même un petit pays. Une démocratie idéale, ça serait une démocratie où chaque sujet serait interrogé à chaque citoyen.
quand vous votez pour un député 4 ans après ou 3 ans après, vous avez peut-être changé d'avis ou lui a changé d'avis, et finalement on n'est pas sûr que votre expression elle est représentée par l'expression du député. Donc la démocratie elle a ses limites dans la représentation populaire.
On attendait. Oui. C'était.
Ouais, voilà. J'ai dépassé.
Voilà. Moi, je me demande si c'est un vrai problème, parce qu'à partir du moment où il y a des groupuscules comme ça, on est animé d'une certaine passion, on n'est pas du tout objectif, donc on n'est pas capable de s'asseoir à une table pour discuter de façon parfaitement calme, comme vous le dites. Donc c'est un faux problème, ça. Et ça, c'est le gros problème de la politique, c'est qu'en fait, le fait de vouloir avoir raison, d'imposer son truc, c'est jamais quelque chose de sage. C'est toujours pour retirer la couverture à soi, et c'est rarement dans le sens du bien public. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de conflit, ça pose aucun problème, et on pose même pas la question. Donc c'est toujours un problème humain de son petit moi-je par rapport aux autres, que ce soit pour les décideurs ou pour les gens qui reçoivent ces mesures.
Madame, vous avez besoin d'un micro pour exprimer la critique de la démocratie au président.
Oui. Je pense que il faudrait peut-être définir le mot politique. La politique, c'est pas, à mon sens... crier dans tous les sens et faire entendre son point de vue. La politique, c'est gérer la cité. Et donc, c'est pas des problèmes individuels. C'est la liberté d'expression dans la démocratie, pour l'envisager comme ça. Et effectivement, à travers la représentativité, sinon c'est la démocratie directe. Chacun se retrouve à crier son point de vue éventuellement, et puis c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. La représentativité, à mon sens, elle est faite pour éviter ça. Et justement... débattre en citoyen des vraies questions sans passion. Mais pour moi, c'est ça le vrai sens du mot politique. C'est pas la crier ou la curer, comme on peut voir, là, comme on a vu à l'Assemblée nationale. C'est un débat qui doit être posé. La politique, je pense qu'on voit la politique comme quelque chose d'extrême, quelque chose de, où chacun crie, chacun est passionné. Je pense que pour moi, le vrai mot politique, c'est pas ça. C'est la gestion du pays, la gestion...
De la police. Voilà. La police avec un S à la fin, c'est-à-dire voilà. De la cité.
Et c'est calme. Ça peut être tout à fait calme, effectivement, s'entendre et se mettre autour de la table et discuter. Apparaît la limite, c'est effectivement... Il y a des groupuscules qui sont interdits, il y a des mouvements qui sont interdits, donc qui sont pas autorisés, a priori, à prendre part au débat. Voilà, le problème, c'est la limite. Jusqu'où on interdit. Je pense que à partir du moment où, à chaque fois... il y a un débordement où on décide d'interdire, on s'éloigne un peu de la démocratie.
Oui, moi je veux juste une petite remarque en passant par rapport à, pour réagir. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ennemi de la démocratie? Parce qu'en fait, la question suppose, il y a une sorte de présupposé qu'on prend pour acquis, c'est pas certain qu'il faille prendre pour acquis, qu'on peut peut-être interroger. Est-ce que la démocratie peut-elle cohabiter ou tolérer les ennemis de la démocratie? Ça suppose qu'on puisse identifier en disant vous êtes un ou des ennemis de la démocratie, vous mettez en danger le système démocratique et le système idéal ou le moins pire de tous les régimes, pour reprendre le mot de Churchill. Est-ce que vraiment ça a un sens de dire vous êtes une menace pour la démocratie, vous, et pas votre voisin? Et qui, et deuxième question qui est subsidiaire et latérale, qui est légitime, qui est à même de désigner l'ennemi de la démocratie? Qui désigne? Vous voyez bien que pour prendre un autre exemple également d'actualité, vous avez vu les mouvements écologistes sur le soutien, enfin contre pardon, le projet des méga bassines dans les Deux-Sèvres, les soulèvements de la terre, etc. Et on entend ici et là tel ou tel dirigeant politique dire que les soulèvements de la terre, qui est une association, un regroupement d'associations écologistes, serait une menace pour la démocratie, qu'il faudrait peut-être dissoudre ces groupuscules, que la Ligue des droits de l'homme pourrait également être menacée de dissolution parce qu'elle menacerait l'ordre politique. Donc finalement, ma question, c'est est-ce que vraiment on peut parler d'ennemis de la démocratie? Si oui, selon quels critères? Deuxième point, qui les désigne? Et une fois qu'on les a désignés, qu'est-ce qu'on en fait? Excusez-moi, je vous ai... Voilà, c'était comme ça, les questions que j'avais, je jetais un petit peu comme ça. Oui, madame, je vous regarde, je crois que c'était monsieur qui a fermé. Ouais.
Bah, du coup, il y a certains trucs que vous avez dit que j'allais...
Ah, désolé.
Non, mais du coup, moi, ça me faisait penser à une question un peu plus fondamentale de est-ce qu'on peut ne pas être dans la société? Parce que du coup, là, on est en démocratie, mais qui sont, enfin, est-ce que tout à partir du moment où aujourd'hui, en tout cas, on vit dans le même pays, que on a, je sais pas moi, tous une pièce d'identité, du coup, des choses comme ça, est-ce qu'on peut ne pas être dans cette société, donc dans la démocratie? Et donc ça pose en effet les questions de ceux qui sont à la marge. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui posent des problèmes par rapport au système dans lequel on est? Est-ce que, bon, après ça va poser la question justement des limites qui sont posées, des lois et tout ça, mais et voilà, est-ce, pour moi de base elle englobe tout le monde, puisque la société par définition aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on puisse vivre vraiment en dehors du système en tant que tel, enfin, mais du coup mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce système et, justement, ça devient pas un peu autoritaire ou quoi, enfin, justement, la question de ses limites et de comment on gère ces personnes. Est-ce que juste les mettre en prison, c'est pas forcément une bonne chose? Est-ce que les mettre dans un hôpital psychiatrique ou quoi? Enfin, mais enfin, voilà, enfin, mais les questions un peu extrêmes, voilà, de tous ceux qui sont à la marge.
Au marge. Et est-ce qu'être à la marge, c'est être un ennemi de la démocratie? Alors, dans l'ordre, je ne sais plus. Je veux dire, j'ai pas. Juste pour rebondir sur la personne qui. En fait, donc la personne qui est intervenue juste avant, suite justement le fait d'apaiser les débats. Donc ça, c'est effectivement, c'est essentiel, quoi. C'est-à-dire éviter toutes sortes de polémiques inutiles, quoi, qui sont sans cesse relevées, soulevées par certains, etc. Donc ça, qui chauffe les esprits. Donc effectivement, apaiser les débats, etc. Que ce soit à tous les niveaux, qui permettent, on va dire, de diminuer un peu la température. Quand on a des extrêmes, notamment, hein, des radicales, même extrêmes, plutôt pas radicales, mais extrêmes, du coup. C'est difficile, on va dire, extrêmement difficile de se confronter à ce type de. Idée. Et là, justement, j'ai pu dire type de personne, donc là, je vous rejoins justement sur ennemi la vie. Je ne vise pas les hommes ou les femmes en tant que tels, c'est pas ça qui m'intéresse maintenant. C'est vrai que la politique, c'est les débats d'idées, c'est les idées qui sont essentielles, qui sont importantes. Les débats d'idées, se confronter aux idées, c'est ça qui est excellent, quoi, en fait, qui est même parfois passionnant et pour certains qui en font leur métier. Et donc, c'est jouissif pour être à l'Assemblée nationale, etc. etc. Donc, bon, voilà, c'est. Bon, on va. Moi, je mets de côté les individus. Voilà, c'est, les gens, ils ont fait leur trajectoire, ils sont arrivés là où ils sont, bon, ils ont des idées telles qu'ils sont. Effectivement, on peut même dire que c'est, si on va jusqu'au bout de la logique de la démocratie, c'est respectable, reconnaître et combattre. Voilà, c'est tout. Combattre parce que c'est en opposition avec ses propres valeurs, ses propres idées, etc. etc. Rester ferme, droit, et voilà, c'est tout. Maintenant, l'idée, c'est bon, on va pas les mettre en bagne, ça c'est clair, c'est fini, ni la torture, c'est fini. Et la peine de mort, c'est terminé non plus, on n'en parle plus. Donc toutes ces choses-là, voilà. Donc, voilà.
Oui. Moi, j'ai envie de demander si on a vraiment le temps de continuer à discuter sur des débats d'idées qui donnent aucune action dans le concret. Parce que les idées, on peut en discuter indéfiniment. Le monde fonctionne, la politique fonctionne comme ça depuis très longtemps. Il y avait des époques où ça roulait bien pour tout le monde. Donc globalement, on avait du temps pour discuter et transformer la politique, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, en des vastes débats d'idées qui donnent rien en aval. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de ça? Je pense qu'il y a des urgences à vraiment se mettre à table sur aller dans le sens de penser correctement, de penser utilement et d'essayer de sauver les meubles parce qu'on est juste en train de s'écrouler avec ce système. Voilà. Donc je pense que les débats d'idées, on n'a plus le temps.
Ouais, sauf qu'on n'est pas tous d'accord sur les solutions à apporter. Combien même on serait d'accord sur le diagnostic, ce qui n'est
en effet.
Pas évident. Diagnostic écologique, crise politique.
Mais peut-être développer quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est changer la forme du dialogue. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de balancer ses idées au voisin, il est d'accord ou pas d'accord, ça devient binaire. Et puis on s'en mange, et puis finalement, ça consiste à imposer son idée, parce qu'en gros, c'est ça, pour se sentir exister, blablabla. Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer une autre forme de communication qui consisterait à réfléchir ensemble par rapport aux idées que chacun propose pour faire émerger la troisième voie? Et ça, ça nécessite de se concentrer, d'écouter avec attention ce que dit l'autre personne et de rebondir par rapport à ce qu'elle dit et non pas de caser sa sauce. Et à ce moment-là, on pourrait pas. Mais ça demande vraiment une autre façon de communiquer et de dialoguer.
qui serait peut-être, ça m'a fait penser comme ça en vous écoutant, ce qui serait peut-être un petit peu à l'œuvre, où il y aurait des esquisses dans une commission mise en place.
C'est vrai, ça commence, mais il faut vraiment aller
sur le climat qui avait été mise en place par. Il y a deux ans, ça n'a pas donné des résultats. Enfin, si, ça a donné des résultats, mais ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi par
l'exécutif
ou la commission sur la fin de vie qui s'est tenue dernièrement et qui a.
Mais ce débat devrait concerner la politique, la finance, c'est-à-dire vraiment des sujets chauds, pas des sujets qui finalement vont. Et la politique, la finance, etc. Et puis cesser de vouloir se faire passer avant pour des questions très personnelles d'arrivisme, d'ambition, de je ne sais quoi, de candidature suprême ou autre. Mais vraiment de bosser dans le sens du bien commun, ça. Bon, on pourrait pas toucher vraiment à ce que gagnent ces gens, parce que la charge politique deviendrait plus intéressante s'il n'y avait pas une espèce de carotte pour que les gens soient intéressés par le fait de réfléchir pour le peuple. Mais sinon, voilà, transformer son dialogue, parce que là, on va dans le mur, on répète indéfiniment les mêmes travers.
Oui. Oui, je vous laisse réagir, monsieur. Oui. Oui. Ah, bon, intervenir, pardon.
Voilà. Moi, je reviens au début de l'humanité. À chaque fois, je reviens à la nature. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une histoire d'éducation de société dès le départ. Dire, on est petit et puis on est éduqué dans une société. Alors, quelle que soit la société où on se situe, c'est pas la même. Dire, notre camarade chinoise, là, quand elle nous écoute, je sais pas ce qu'elle est en train de penser, mais ça va être terrible. Parce que pour elle, un modèle démocrate chez eux, c'est pas comme ça. C'est pas la démocratie en Chine. De notre point de vue, de leur peut-être. La Révolution française l'a donné, parce qu'avant c'était la royauté, mais ça roulait, comme disait la dame là. Ça roulait, vous avez des têtes peut-être, mais ça roulait. Après, moi je voulais ramener un caillou là-dedans, c'est est-ce que la démocratie, c'est pour rajouter quelque chose, est-ce que c'est un lien avec la laïcité ? Voilà, aussi. Parce que on regarde là, on parle de la France là, et puis on regarde de l'Europe, parce que c'est passé en France. Mais on a un pays qui n'est pas forcément laïque, où les laïcs effectivement prônent la démocratie de leur façon, et d'autres pays qui ne sont pas forcément démocrates, des pays genre musulmans qui, eux, imposent la charia avec une démocratie qui est la leur, hein, pour eux, ils ont leur vérité. Alors, ben voilà, je fais un amalgame de tout ça, et moi, je me pose la question, effectivement, si ces extrêmes-là, à un moment donné, ils ont lien avec toute la nation, et puis ils ont quand même vachement de support de la population pour aller dans le même sens, par histoire d'idéologie d'éducation. En Russie, il y a quand même vachement. Alors maintenant, j'en sais pas où j'en suis trop parce qu'il y a cette guerre, mais il y a beaucoup de Russes qui suivaient Poutine. Je ne sais pas, ils sont toujours en actualité parce qu'il y a plein de jeunes qui sont morts et puis ils voient leur.
C'est pour rien, on en fait trop
voilà.
Rien.
Voilà. Donc, mon postulat de départ, c'est d'éducation sociale des petits donne la démocratie qu'on voudrait bien voir parce que c'est le modèle de nos parents. Voilà.
Entendu.
Oui. Et après, je reprendrai la parole.
Ah, ouais, mince, j'ai pas appuyé. J'ai peut-être pas.
Non, je crois que
c'est pas bon. Je crois qu'il faut appuyer. J'ai pas vérifié. Ouais, c'est bon.
Voilà. Ça peut peut-être aller mieux. Je reviens peut-être un peu en arrière, mais il me semble que l'autorisation, plutôt la non-interdiction de cette manifestation d'extrême droite, posait d'autant plus problème qu'il y a d'autres manifestations, d'autres modes de manifestation qui, eux, ont été interdits. Donc, quels sont les critères ? C'est ça aussi, je crois, qui pose problème. Sur quelle base est-ce qu'on décide qu'une manifestation est autorisée ? Ou qu'une autre manifestation ou un mode de manifestation qui n'est pas violent doit être interdit.
Après, je pense, c'est pas du tout une réponse philosophique, du tout. C'est une réponse de préfet que je ne suis pas et je ne serai jamais. J'ai l'impression que le critère, il est d'abord est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. C'est d'abord ça, je pense. Voilà. Lorsque, je me rappelle, ça remonte à quelques années maintenant, lorsque, comment il s'appelait, le pseudo-humoriste, faux humoriste, antisémite, Dieudonné, devait se produire à Orléans, au Zénith, je crois. Son spectacle avait été interdit, c'était au moment où c'était Valls, à l'époque, c'était Manuel Valls qui était ministre de l'Intérieur, pour une raison, c'était pas contre la liberté d'expression de tel ou tel artiste, c'était parce qu'en fait, il y avait des risques de troubles à l'ordre public, d'insécurité, de pour, de contre, et qu'il fallait prévenir les tensions sociales
en annulant le spectacle. Et donc, on va nous dire, bah, écoutez, si telle manifestation des, c'est un peu différent, des soulèvements de la terre risque de troubler l'ordre public, bah, on va interdire les interventions de ces écologistes dits extrêmes, dits radicaux, j'ai bien dit, extrêmes et radicaux. C'est pas une réponse philosophique, hein, mais...
Oui, je voudrais intervenir. Il me semble qu'on parle beaucoup de démocratie, mais moi, personnellement, j'interroge ce terme. Qu'est-ce que la démocratie ? Et par exemple, est-ce que c'est simplement une forme creuse, sanctionnée par le vote, où se confrontent les rapports de force, et où la majorité a toujours raison et la minorité a toujours tort ? Est-ce que c'est le débat qui permet d'aller vers le consensus ? Et personnellement, en parallèle à ce qu'on appelle la démocratie, j'aimerais qu'on parle de pratique démocratique. Pratique démocratique, par exemple, à l'école, pour le problème d'éducation, mais aussi dans l'entreprise, pourquoi pas, et dans tous les domaines, permettre que cette pratique démocratique permette effectivement l'accoutumance au débat d'idées, et donc à ce moment-là, on peut se confronter avec tous, et la construction de décisions collectives à travers ce débat d'idées et bien entendu l'information complète, enfin, etc. Mais il me semble que le problème est plus un problème de pratique démocratique au niveau des personnes que cette forme où, de toute façon, on a voté la majorité, le rapport de force fait que la majorité a raison et la majorité décide. Mais pendant ce temps-là, la minorité, elle n'existe plus.
Oui, alors, là, je pense que tu pointes, enfin, on va un petit peu au cœur de la question. Enfin, juste une remarque, et puis après, je vous redonne la parole, évidemment, tout de suite, sur, finalement, savoir si la démocratie, c'est un système politique, avec son mécanisme interne, que tu as évoqué. On réunit... des citoyennes et des citoyens que l'on considère comme étant autorisés et légitimes à prendre la parole et à orienter la politique de la cité vers le bien commun, donc soit par le vote direct, version démocratie directe grecque, soit indirectement en élisant des représentantes et des représentants. Donc est-ce que c'est simplement une mécanique institutionnelle? Auquel cas, bah, la démocratie, ça peut être en lien avec la laïcité ou pas. Enfin, on peut être dans un État non laïque et dans une démocratie. L'Allemagne n'est pas un État laïque. Officiellement, c'est une démocratie. Voilà. Où est-ce que la démocratie... Et donc, à ce titre, je termine sur le raisonnement. Effectivement, la majorité l'emporte et puis la minorité n'a plus qu'à devenir majoritaire si elle veut se faire entendre. Ce qui va faire dire... À Tocqueville, au début du XIXe siècle, que en démocratie, il y a bel et bien une tyrannie, c'est la tyrannie de la majorité. Voilà. Donc, finalement, on est passé d'un tyran qui était un monarque absolu à un tyran qui est une courte majorité au terme d'une campagne électorale. Ou est-ce que, c'était la deuxième élément que tu invoquais, ou est-ce que la démocratie, c'est plus qu'un système, une mécanique politique? Est-ce que c'est un type de société, un type de rapport à l'autre, qui, me semble-t-il, reposerait sur trois principes, si on veut aller très vite. Le premier principe, un principe d'égalité des droits, une égalité formelle, non pas égalité sociale, mais l'égalité des droits. Hommes et femmes doivent pouvoir bénéficier des mêmes protections de la part de la puissance publique et des mêmes prérogatives, donc une égalisation des droits. Deuxième principe, la préservation des libertés fondamentales, d'aller et venir, de s'informer, de s'exprimer, de créer, etc. etc. Et troisième, et c'est là où il y a débat sur ce que c'est la question que vous posiez ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celles et ceux qui ne partagent pas, la démocratie, c'est également la possibilité d'intégrer dans son corps des éléments de contestation, des éléments de critique, y compris des éléments de critique du système démocratique.
Vous avez un très beau texte, je termine après avec mes références de professeur de philosophie, de John Stuart Mill, qui est un philosophe britannique anglais du 19e siècle, qui est l'un des pères de ce qu'on appelle le libéralisme politique. C'est un texte qui s'intitule « De la liberté », c'est un gros pavé, où il essaie de penser finalement les fondements d'un libéralisme politique. Et Mill est assez radical là-dessus, il y a une sorte de libéralisme extrême chez Mill en disant « Mais dans une démocratie, la tolérance doit être sans condition, doit être sans limite, doit être absolue, ce qui ne va pas s'en poser problème. » C'est pour ça qu'il y a débat, doit être absolue. D'abord parce que mettre une limite à l'expression de telle ou telle critique, c'est déjà finalement aller contre l'esprit même de la démocratie. Et deuxième point, il y a une sorte d'optimisme chez Mill, on est au début du XIXe siècle, il n'a pas connu les guerres totales, il n'a pas connu la montée des fascismes et du nazisme, etc. D'accord, je crois que c'est 1800, enfin, je ne me rappelle plus, il y a des bêtises sur la date. Deuxième élément, il y a une sorte d'optimisme, disais-je, dans une démocratie, chacun va, violemment ou pas violemment d'ailleurs, manifester son opinion, même violemment, et puis finalement, le bon sens étant la chose du mieux partagée, on peut faire confiance à l'opinion publique qui va départager entre les opinions extrêmes et suicidaires ou dangereuses pour soi et pour les autres et celles qui méritent d'être mises en place. Et finalement, il y a une sorte de confiance comme ça dans une sorte de consensus qui va progressivement se fabriquer, progressivement s'établir par l'information, par l'éducation, finalement, une sorte de... Finalement, la démocratie fera d'elle-même le tri entre les opinions et les courants les plus recevables et ceux qui, finalement, vont se perdre dans des groupuscules ultra-minoritaires. Et donc, en ce sens, voilà, si la démocratie, c'est un système social, jusqu'où peut-on, doit-on, faut-il, je ne sais pas comment l'exprimer, accepter des prises de position personnelle ou collective, politique ou prenant d'autres formes, culturelles, artistiques, religieuses, que sais-je encore, qui viendraient menacer cet équilibre-là. Finalement, est-ce que c'est pas, vous voyez bien le problème, est-ce que c'est pas donner finalement le bâton pour se faire battre, que de permettre à des néo-nazis ou permettre à des personnes qui explicitement militent pour un système alternatif à la démocratie, qui pour le dire de manière plus simple, qui explicitement veulent la mort de la démocratie, est-ce que c'est pas donner le bâton pour se faire battre que de leur dire bah, « Vas-y, gars, on t'autorise à manifester. »
Donc dans ce cas-là, autorisons-les également à créer un parti qui puisse aussi être représenté au sein de...
Au sein des... Voilà, sein de jouer le...
Différents partis, et puis voilà. Donc, voilà. Donc c'est maintenant, c'est l'heure qu'ils aient leur propre parti.
Et donc tout va bien alors?
Tout va bien. Dans la logique en tout cas de la démocratie, et je rejoins totalement avec ce que vous avez dit. Quoi. C'est dans la logique, si on va jusqu'au bout de la logique de la démocratie.
Et donc Hitler élu en 1933.
Welcome in France. Voilà. Voilà. Bien sûr, c'est d'ironie.
J'entends. Okay. Moi j'ai parlé et puis je crois que j'ai trop parlé. Oui, madame.
Bonjour, je crois que d'après moi, la démocratie, ce n'est pas que pour vous le droit de faire quelque chose, ou le droit ou la loi ou quoi d'autre. La politique, c'est tout d'abord, c'est la base, c'est le mental. C'est comment ce groupe des gens qui. Comment leur mental, comment ils pensaient des choses. Par exemple, pourquoi nous, en Chine, on n'a pas de démocratie? D'après moi, c'est parce que. On est dans une société assez injuste. C'est dans une société injuste. En Chine, il y a beaucoup d'inégalités partout. Si tu es dans une situation, il n'y a pas de juste. Il n'y a pas... Tu vas perdre tes employés, un travail. Si tu perds ton travail, tu ne peux pas vivre. On n'a pas le système de santé, la sécurité sociale. On n'a pas ça. Il y a beaucoup de gens qui... Il n'y a pas de retraite. Qui travaillent dans le chantier, il n'y a pas de sécurité sociale. Alors, la démocratie, la conséquence de la démocratie, c'est la catastrophe. Ça sera beaucoup de haine. Avant, il y a une période de Mao Zedong. Avant, il y a une une période de démocratie, c'est-à-dire que tout le monde va ensemble pour voter quelqu'un, il va mourir ou quoi, on va voter pour cette destination de cette personne, il a juste fait une erreur politique. Mais tout le monde, on va voter pour leur mourir, on veut qu'il mourre, parce qu'on a beaucoup de haine. On a beaucoup de haine. Si on est dans une situation, dans une société injuste, on ne va pas avoir compassion avec d'autres personnes. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est dans une situation faible, des gens dans la rue, mais moi, je suis dans une situation assez injuste, je n'ai pas le moyen de vivre. Comment on va avoir une compassion avec d'autres personnes? Et vous, en France, vous êtes une société assez agréable, tout le monde à la l'aise. Dans la base, c'est, vous avez un système de société, sécurité sociale, vous n'avez pas la peur. Je ne peux pas vivre demain, alors donc, démocratie, c'est possible pour vous, pour discuter, pour développer, je ne sais pas. Mais pour nous, j'ai l'impression que nous, la démocratie, ça sera une catastrophe pour les gens dans une société qui est pas juste. Si on n'a pas juste, ça ne va pas fonctionner, la démocratie. D'après moi, c'est comme ça.
Donc, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des conditions sociales qui le permettent. Une assurance sociale, etc. Vous levez la main.
Ah, ce n'est pas vous.
D'accord. Ah, pardon,
oui,
madame.
Je voudrais rebondir juste là-dessus. Vous dites. Je pense que c'est le contraire. Je pense que la démocratie, elle est. En France, elle s'est construite. Après, on a eu la sécurité sociale, la retraite, toutes sortes de choses, même si on râle tout le temps. Ça s'est construite parce qu'on a mis fin à la monarchie, comme je pense que ça peut se construire quand on met fin à la tyrannie. Et ça, c'est le peuple qui le fait, et c'est pour ça que ça s'appelle la démocratie. Et c'est le peuple, après, parce qu'il a retiré les pouvoirs du tyran, les pouvoirs absolus, qui met en place, pour la société, des choses qui fonctionnent et qui font que les gens ont une retraite, ont du travail, n'ont plus peur, etc. Que, justement, le tyran, le monarque, a intérêt à entretenir la peur chez ses sujets, ses sujets, pour que, justement, ils ne bougent pas, en leur faisant croire que s'ils voulaient mettre en place autre chose, ce serait pire. Je pense que, justement, c'est le peuple qui doit réfléchir. Et ce que je voulais dire avant l'intervention précédente, c'est qu'il me semble que pour qu'une démocratie fonctionne, avant tout, il faut l'éducation. Parce que ça pose effectivement la possibilité des limites. Si chacun réfléchit, est éduqué, apprend à avoir un esprit critique, avoir du recul, avoir de la connaissance, comparer les choses, ça permet effectivement aux gens de ne plus suivre n'importe qui comme un gourou, ou une religion, ou des gourous politiques, ou des mouvements extrêmes. Et quand vous disiez tout à l'heure que les mouvements politiques extrêmes, bon ben hop, chacun va créer son parti, et je pense que ces mouvements-là, eux-mêmes, profitent d'être dans un état démocratique pour exister. Donc déjà, si par l'éducation, on explique ça aux gens plus jeune âge, je pense que tout ça, ça finit par faire son chemin. On voit quand même, au résultat des élections, que le parti de Éric Zemmour, par exemple, finalement, ça n'a pas été la réussite qu'on aurait pensé. Je pense que si on consolide l'éducation, une éducation, égalitaire, enfin, à travers l'école publique, à travers la laïcité en France, à travers des choses comme ça, effectivement, on pourra faire confiance à ce que vous avez appelé le bon sens, parce que ça sera un bon sens réfléchi, construit et intelligent.
Juste une micro-remarque sur le lien entre démocratie et liberté. Vous disiez, on s'est débarrassé du tyran et on a établi la démocratie par la Révolution française. Pour rappel, la démocratie athénienne, elle repose sur les bases de l'esclavagisme, elle repose sur la base de l'exclusion des femmes du corps des citoyens et l'exclusion des étrangers, des métèques. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est profondément inégalitaire, qui nous choquerait aujourd'hui si jamais des Athéniens venaient nous voir mais en disant ben, « Ah, vous n'avez pas d'esclaves, comment ça ?» enfin, voilà. Et pour autant, c'est bel et bien le berceau de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie peut aussi s'accommoder d'une situation socialement
inégalitaire et si profondément injuste.
Ça évolue. Oui, voilà. On a aussi nos esclaves, je pense, d'une certaine façon.
Oui, mais moi, c'est pour rebondir par rapport, du coup, à la dame qui est chinoise, et elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, on se paye le luxe, effectivement, comme dit madame, de râler tout le temps, alors qu'on est dans une société particulièrement privilégiée en France, où on a le temps, le luxe et l'énergie de râler et de sans arrêt faire valoir des idées, c'est-à-dire qu'on est complètement détaché du quotidien, on fonctionne complètement dans une sphère d'idées, de machin, alors que globalement, les gens, je suis désolée, mais dans leur vie personnelle et privée, il n'y a pas tous ces problèmes-là, il n'y a pas tout ça. Donc on en crée à gogo dans le fantasme, parce que c'est un privilège, parce qu'en France, on vit bien, et parce qu'on est pourri gâté par rapport à certains autres pays. Je suis désolée, il faut quand même être honnête. Il faut quand même être honnête. Donc on se fait le luxe de blablater comme ça en l'air et d'avoir des opinions et des machins, parce que justement, nos vies personnelles vont bien. Elles vont bien, on n'a jamais été dans autant d'abondance, tout azimut, par rapport à d'autres pays dans le monde, quoi. Il faut quand même le reconnaître. Il n'y a pas.
Pour revenir à ce que vous disiez, ce que disait madame, que je partage tout à fait, je pense que le fonctionnement d'une démocratie dépend fortement de la qualité des oppositions de ceux qui sont contre la façon de vivre notre démocratie. Alors il peut y avoir des réactions soft et puis des réactions violentes. Ce soir, par exemple, notre débat, c'est vraiment l'exemple pur de la parfaite démocratie. Des gens ont exprimé des sujets, vous n'avez pas voulu favoriser tel ou tel sujet, les gens ont voté, certains ne sont peut-être pas satisfaits du sujet qui a été pris, mais personne n'a sorti de casserole, ni vociféré. Donc c'est l'exemple parfait. Malheureusement, quand on est face à 65 millions d'habitants ou 66 millions d'habitants, c'est pas du tout la même chose. Et une démocratie vis-à-vis de telle ou telle opposition, tout à l'heure on parlait de M. Zemmour, où il y a les Black Blocs, là, effectivement, on ne peut pas réagir de la même façon. Donc le fonctionnement d'une démocratie est vraiment lié au fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons.
Et donc de la qualité des oppositions.
Et de la qualité des oppositions.
Ouais. Monsieur Zemmour, il n'a pas fait de coup d'État.
Non.
Voilà, franchement. Il participe au jeu démocratique.
Moi, je me demande quand même si la démocratie n'est pas un leurre. Comme vous nous le disiez très justement, la démocratie athénienne est une plaisanterie. 60% d'esclaves, 20% de métèques et donc 20% de citoyens. Et parmi ces citoyens, qui sont ceux qui sont élus? Ce sont les nobles et les riches, et ceux qui parlent bien. Si vous avez ces trois qualités-là, vous dominez la démocratie. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez nous, vous avez des gens qui parlent très bien, c'est le président de la République, vous avez des gens qui crient de droite, de gauche, du milieu. Tout ça, c'est du baratin, ça sert strictement à rien. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui domine tout ce système? Et ce qui domine tout ce système, ce sont nos médias, c'est l'informatique, hein, l'informatique qui nous prend au collet et qui nous fait croire à tout son baratin, alors que ce qui nous domine, c'est la puissance, ceux qui veulent le pouvoir, et l'argent. À partir de ça, la démocratie, bonjour.
Ça fait penser à une formule de Coluche de mémoire. De mémoire, la dictature c'est ferme ta gueule, et la démocratie c'est cause toujours. Oui. En référence assez peu philosophique, mais voilà.
Du coup, pour en revenir à la question des ennemis de la démocratie, je pense qu'on pourrait se demander, mais pourquoi ils en sont là? Est-ce que c'est pas symptomatique de quelque chose dans la société d'avoir des gens qui s'opposent à la démocratie? Est-ce que ça ne signifie pas que quelque chose fonctionne mal? Ou surtout, enfin, je ne sais pas si on peut voir en termes de statistiques, mais peut-être qu'il y a toujours eu, dans des sociétés, enfin des périodes un peu plus apaisées, peut-être qu'il y a toujours eu un certain pourcentage d'ennemis de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui il y en a plus? Et est-ce que c'est pas justement le signe de quelque chose? Madame derrière disait que si la société est injuste, la démocratie aura peut-être. Je sais pas si on a un référendum alors que la société est très injuste, peut-être qu'on arrivera à des résultats très injustes. La question est de savoir pourquoi cette société est injuste. Est-ce qu'il y a justement une augmentation des inégalités qui fait qu'il y a plus de grognes, de gens qui sont pas contents, de gens qui, du coup, ont du mal à survivre, du coup. Par exemple, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on voit apparaître une haine, peut-être excessive, mais une colère entre les jeunes et les vieux, par exemple avec le Covid, où il y a eu des choses qui ont fracturé la société, qui ont fait qu'il y a eu des oppositions entre des groupes de personnes. Bon, on voit les ouvriers et les patrons. Enfin, bon, après, c'est peut-être une logique un peu de lutte des classes, mais du coup, si on essaye de voir un peu quelles sont les raisons de ces oppositions, en fait, pour essayer justement de voir est-ce qu'il y a un débat possible, est-ce qu'on peut essayer de remonter un peu plus en amont. Je sais pas, après, ça peut se faire d'un point de vue de répartition des richesses économiques, de faire en sorte que les gens y travaillent et qu'ils aient les moyens de vivre leur vie normalement. Enfin, des choses comme ça qui feraient que, justement, on apaiserait le débat et qu'il y ait moins de gens qui soient contre la démocratie parce qu'aujourd'hui, elle ne convient plus sous cette forme-là. Ouais. Ou quoi.
Mais il me semble qu'il y a un point commun entre vos deux interventions. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. C'est que, contrairement à ce que nous pourrions croire, c'est pas exactement ce que je pense à titre personnel, mais contrairement à ce que nous pourrions croire, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, d'abord parce que le système démocratique, il a toujours été vicié, biaisé depuis le départ. Il profite à celles et ceux qui ont le pouvoir du langage, le pouvoir économique, etc. Vous parliez des riches qui achetaient des voix à Athènes ou à Rome. Voilà. Et ce que vous mentionniez ici, c'est que finalement, ces mouvements de colère, de tension, voire de haine qui peuvent s'exprimer ici ou là, serait le symptôme d'une absence ou d'une faille de nos systèmes qu'on prétend être démocratiques et qui ne sont pas, et qui seraient finalement des systèmes oligarchiques. Mmh. Oligarchiques au sens où le pouvoir serait détenu, capté par quelques élites économiques, sociales, culturelles, souvent les mêmes d'ailleurs, ou qui se reconnaîtraient, ou qui s'organiseraient de façon à finalement endormir le peuple sous l'organisation d'élections régulières, etc., sous la forme de minima sociaux qu'on veut bien nous garantir, mais qui finalement irait s'enrichir au sens économique, mais s'enrichir dans tous les sens du terme, finalement capter finalement les richesses nationales et internationales. Et c'est finalement, si on voulait soutenir un paradoxe, les véritables ennemis de la démocratie, si on allait jusqu'au bout de cette logique-là, je ne suis pas sûr que vous y alliez, mais je la propose comme ça, à titre d'hypothèse, les véritables ennemis de la démocratie, ce seraient les démocrates eux-mêmes, c'est-à-dire ou ceux qui sont censés nous représenter et qui se prétendent avec la bonne conscience qu'elle a leur, la voix du peuple. Soit la voix du peuple dans les assemblées, élu, soit la voix du peuple au sens où on s'est fait nous-mêmes, on a un bagage culturel, économique, technique qui nous permet d'être des sachants, des savants et finalement des donneurs d'ordre. Que finalement, la démocratie, ça serait un vain mot qui cacherait un système qui a toujours déjà été un système oligarchique. Soit explicitement oligarchique, soit implicitement oligarchique. Et que le lycée dans lequel j'ai l'honneur de fissier depuis quelques années, finalement, ça serait de la mascarade, au sens où on vous vend la méritocratie, on vous vend l'école pour tous et pour toutes, on vous vend tu vas voir, tu auras ton diplôme et tu vas pouvoir construire ta vie, mais en fait, allez, hop, oui. Tu votes et tais-toi. Oui. Élection piège à con, disait Jean-Paul Sartre. Oui, madame, pardon.
Ça marche? C'est pour revenir sur la notion de contexte, la question qui avait été posée
Ouais, c'est toujours
le décalage. Du coup, je me souviens que lors d'un café philo, il avait été dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, pourquoi étaient passés notamment certains droits, enfin, ou certaines lois, sécurité sociale et tout, c'était aussi parce que ceux qui avaient collaboré, c'est-à-dire en gros la France pourrie, se tairaient et en disaient le minimum pour ne pas avoir d'ennui. Voilà. Donc, je rebondis, on pourrait donc faire une conclusion quand même qu'il est bon peut-être de faire taire quand même ceux qui ont des discours haineux pour justement créer toujours un contexte favorable pour faire passer des lois qui s'occupent du bien commun, etc. Enfin, il me semble que ça avait été dit, ça.
Oui, oui. Alors, juste pour, encore une fois, pas de... Il ne s'agit pas de faire de politique de mon point de vue, mais M. Éric Zemmour, qui a encore la possibilité de s'exprimer librement sur les plateaux ici et là, et de mener à bien sa carrière politique, a été condamné par deux fois pour incitation à la haine raciale, pour des interviews ou des prises de parole publiques qu'il avait menées. Ça ne l'a pas... On ne lui a pas interdit pour autant et de s'exprimer à nouveau et de se présenter à l'élection présidentielle.
Sommes-nous réellement dans une démocratie?
Je te laisse gérer. Madame, oui, vas-y.
Oui, donc je vais en choquer plus d'un peut-être ici, mais... J'ai le sentiment, en fait, que nous sommes dans une république bananière.
C'est clair.
Avec des oligarques. Et je veux dire, comment se fait-il aujourd'hui qu'en haut lieu, il est toujours question de corruption, de trafic d'influence, d'évasion fiscale, etc. Et en fait, rares sont les gens qui sont condamnés. Alors qu'un petit jeune qui va dans un supermarché, qui pique un camembert parce que ouais, il n'a pas de quoi manger le... Eh bien, il est aussitôt jugé en comparution immédiate. Donc, voilà, je me pose bien des questions sur ce qui se joue avec nos gouvernements.
Donc, la démocratie ne serait qu'une façade.
Voilà.
Oui, non, non. S'y traduit votre pensée de manière correcte.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec madame tout à l'heure que la démocratie, il fallait absolument une éducation et notamment une éducation à l'esprit critique. Mais une fois qu'on sait raisonner, il faut encore raisonner à partir d'éléments exacts. Je crois que la démocratie ne peut bien fonctionner que si on a une information de qualité. Or, il est certain aujourd'hui que quand on regarde à qui appartiennent les grands médias, il y a de quoi avoir très peur, parce qu'ils sont tous entre les mains d'intérêts privés très puissants, et je crois qu'on est en plein dans ce que Noam Chomsky a appelé très justement la fabrique de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter les votes, on les façonne par la désinformation au lieu de l'information.
Donc les ennemis de la démocratie seraient en partie les grands médias ou les médias qui fabriquent l'opinion?
La plupart des médias, quand on gratte un peu, on tombe des grands groupes privés avec des intérêts puissants. Et il est clair que ces médias-là ne diront jamais quoi que ce soit qui puisse nuire aux intérêts de ceux qui les possèdent. Pour prendre un exemple tout à fait au hasard, Le Figaro qui appartient à Dassault ne va jamais dire que la France trahit ses engagements internationaux pour vendre des armes, par exemple. Mais il y en a d'autres. On ne parle jamais non plus dans tous ces grands médias qui appartiennent à des multinationales des accords de libre-échange qui visent pourtant à transférer le pouvoir des États aux multinationales.
Alors, si je vous entends, entre les inégalités sociales, l'injustice du quotidien, le pouvoir vicié dès le départ et la fabrique de l'opinion détenue par les grands propriétaires privés, les ennemis de la démocratie sont pas ceux qu'on pense. On était parti de quelques groupuscules néo-nazis qui prennent les rues de Paris un 8 mai, avec la symbolique que ça indique, on en arrive à Serge Dassault et Vincent Bolloré. Si je... Si l'on vous suit, vous... J'ai pas vu qui demandait la parole.
Je suis d'accord avec la dame qui dit qu'on est dans une république bananière. Il faut quand même le constater à certains égards. Mais en fait, le problème de la démocratie, quelque chose qui ferait vraiment, qui ferait peut-être vraiment bouger les choses, c'est que démocratie ou pas, tout ce qui est décidé, tout ce qui est fait, etc., il y a 90% de projection personnelle dedans. Donc si on voit pas, si on va pas aux sources du fonctionnement de l'être humain, eh ben on peut pas comprendre les conséquences. Parce que tout vient de là, en fait. L'avidité, l'abus de pouvoir, la manip, etc. Donc il faut remonter, il faut vraiment être très très clair, parce qu'on peut être objectif, mais il faut savoir qu'il y a toujours une part de projection personnelle dans quoi que ce soit qu'on puisse proposer, hein, de négatif ou de positif. Et il faut vraiment être aware, il faut vraiment savoir ça. Parce que ça permet effectivement de commencer de faire la prise de conscience de ça, peut permettre de raisonner un petit peu autrement. Et vraiment de façon factuelle, en étant bien clair, de minimiser au maximum la projection personnelle. Parce qu'en fait, quelque part, voilà, sinon c'est sans solution. Puisque ça concerne l'humain et que c'est l'humain qui est aux commandes de ça. Voilà. Donc démocratie ou pas démocratie, le problème, il est simplement humain, quoi. Et en fait, on projette des abus, mais qui sont dans notre psyché, quoi. Enfin, qui sont dans notre fonctionnement depuis des siècles. Et donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure en proposant le sujet, il faut une vraie, véritable révolution intérieure, et c'est ça que ça propose. C'est-à-dire d'être vraiment conscient de notre façon d'agir, pourquoi on agit, pourquoi on dit ça. Et là, ça risque de beaucoup nous renseigner.
Pour nous faire comprendre, quelque part, l'intérêt.
Il est bon.
La censure,
toujours.
La censure. On veut nous faire peur. Donc. Oui, monsieur, oui. Sauf si vous aviez. Vous aviez terminé ce que vous vouliez.
Non, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous disiez, en fait, on est démocratique. Ça finit par être le chaos total après, parce qu'on se rend compte que les uns, du côté de la démocratie ou pas, fonctionnent exactement de la même façon, avec les mêmes systèmes et les mêmes névroses. Donc de toute façon, on n'y comprend plus rien au bout d'un moment. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à être factuel et à raisonner à partir des faits. Mais c'est difficile, il faut quand même reconnaître qu'on est tout le temps un peu dans la projection.
Très bien. Bah, du coup, moi, j'en profitais, je vais revenir à mon sujet que j'avais proposé, et l'ego, parce que le moi-je. Donc, tournant vers son ego personnel. Et bien après, il y a des égos, justement, qui peuvent être sympas, parce que je pense à Mandela, je pense à Lech Walesa, qui, eux, prenaient la démocratie, qui vivaient dans un 4-pièces, voilà, et c'était pour le peuple, hein. Pour l'ego aussi, certainement, parce qu'on participe à la perte de la, mais c'est pour que ça aille dans le bon sens. Il y a quand même des gens qu'on a connus, qui existaient pour ça, quoi. Bon, après... Ce que je voulais dire, c'était clin d'œil par rapport au guignol de l'info. Hein, le dirigeant, c'est commandant Sylvestre.
D'accord. Référence ancienne.
Oui, je rebondis simplement après que je laisse la parole, mais vous évoquiez Lech Walesa et Nelson Mandela. Moi, j'ai envie de développer un peu cette idée, c'est-à-dire que j'entends les différentes critiques sévères que vous adressez, et même radicales, par rapport au système, à la société démocratique, en France ou ailleurs, quand même, si on est Nelson Mandela, on sait qui est l'ennemi de la démocratie. C'est relativement clair, c'est-à-dire qu'on a une minorité blanche qui oppresse une majorité d'hommes et de femmes noires, qui envoie pendant 27 ans de mémoire en prison... l'un des dirigeants qui milite pour simplement l'égalité des droits et la possibilité de faire valoir, de faire entendre sa voix et d'avoir voix au chapitre, qui est l'ennemi de la démocratie, c'est relativement simple. Il est là, il est en face, il y a bel et bien un ennemi, c'est les Afrikaners qui m'envoient pendant 27 ans en prison. C'est-à-dire que j'entends le relativisme, j'entends la critique, les médias, etc., mais à un moment donné, peut-être que les ennemis de la démocratie, vous l'avez dit à un moment donné, vous l'avez suggéré, je crois que c'était vous, monsieur, la démocratie, c'est un système extrêmement fragile, parce que précisément, il porte en lui, c'était le troisième principe que j'ai évoqué tout à l'heure, la possibilité de sa critique. Et sa critique et sa contestation, y compris la contestation la plus vive et la plus vivace, voire même la plus violente.
Effectivement, face à des ennemis de la démocratie, bah, en fait, on se retrouve soit à fermer sa bouche, soit, si, comme Mandela ou comme Valza, on persévère dans la défense de ses idées et de son idéal, soit entre quatre murs, avec la possibilité de perdre la vie, sans doute. Parlez-en à Navalny en Russie. Navalny en Russie, actuellement, voilà, il est bien assigné à résidence. C'est qui l'ennemi de la démocratie, en fait, je vais vous dire. Il s'appelle Ido Kremlin, en fait. Il s'appelle Vladimir Poutine. Donc j'entends le relativisme, mais à un moment donné, on a envie de se dire, mais en fait, la démocratie, c'est et un système politique et une forme sociale d'organisation du dissensus, de la discorde. Et il y a des gens, il y a des personnes, des dirigeants ou pas des dirigeants, qui ne jouent pas le jeu et qui imposent une voie autoritaire, auquel cas on n'est plus en démocratie. Moi, j'aurais plutôt tendance, vous voyez, je donne un peu mon opinion, j'anticipe un peu la conclusion, c'est pas le problème, plutôt tendance à peut-être me dire que je suis naïf, candide, etc., la tête dans le nuage, etc., à dire, bah, en fait, bah oui, bien sûr qu'on est en démocratie en France. Bien sûr. La preuve, c'est qu'on peut avoir une presse indépendante. On peut s'abonner à une presse indépendante. Moi, je suis abonné, on s'en fiche de ma vie, mais à deux revues totalement indépendantes, financées par les abonnés, uniquement par les abonnés, sans publicité, sans rien. Je suis pas sûr que si j'étais en Russie aujourd'hui, je pourrais. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un débat qu'on ne pourrait peut-être pas tenir ailleurs qu'ici. Donc, les ennemis de la démocratie, pour moi, ils s'appellent Poutine, ils s'appellent Bolsonaro, ils s'appellent Donald Trump, et c'est dire qu'ils veulent prendre le Capitole de force. Quand même, quoi, à un moment donné. T'as envie de dire, non, en fait. Emmanuel Macron, on peut avoir voté pour lui, pas voté pour lui. Il n'a pas pris son pouvoir sur un coup d'État. Et il rendra les clés de l'Élysée en temps voulu. Et la réforme des retraites, on peut être pour ou contre. Certains m'ont croisé dans la rue. On peut être pour ou contre. En fait, c'est pas un coup d'État. Elle a été annoncée dans son programme lors des dernières élections. Les gens ont voté en connaissance de cause. Le 49-3, il est constitutionnel. C'est pas un coup d'État. C'est un coup de force. C'est pas un coup d'État. C'est pas Adolf Hitler. J'ai dit ça, j'étais dans la rue. Hein. Oui, enfin, on s'en fiche d'ailleurs, c'est pas pour ou contre. Et on peut aller dans la rue. Voilà, j'ai donné un peu mon point de vue, un peu vif.
Donc, je vais faire un petit retour vers le futur 15 minutes avant. Juste pour rebondir sur la demoiselle qui est en bleu devant moi. Du fait qu'elle a noté en fait la lutte des classes, en fait, donc c'est un marxiste.
Et oui, sur le rapport entre les terres où vous voyez les patrons, oui.
En parlant des élites qui viennent issues de la bourgeoisie, hein, c'est vraiment la bourgeoisie qui a établi en quelque sorte, qui a participé en grande partie à la Révolution française et qui nous a mené encore aujourd'hui.
Une révolution bourgeoise, oui.
Voilà, et qui s'accapare, on va dire, des choses qui ont été inventées par les classes populaires, qui les raccapare pour eux et qui les raménage à leur sauce. Qui en font des business ou autres, des commerces ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est cette notion de classe, toujours, qui est toujours d'actualité en fait, elle est réelle, elle est clairement réelle quoi. Et toutes nos élites, ils sont issus de cette classe quoi. C'est les nains, les gens, voilà. Et je voulais aussi revenir donc dessus, aussi par rapport aussi au salariat aussi. Salariat qui en fait, selon Marx, est un aboutissement de l'esclavagisme. C'est-à-dire c'est l'aboutissement clair et net de ce qu'est l'esclavagisme. Ça veut dire qu'on est pris entre deux étaux, on n'a plus le temps de participer à la vie quotidienne du tout même. Et on nous offre un peu de loisirs, de confort, etc. par-ci par-là. Ok, c'est bon. Ça nous offre un petit taux de bonheur, ça augmente un petit peu le taux de bonheur. Voilà, chacun, on va dire, est content, conforté dans son petit confort de vie, etc. Il y a des choses quand même qui sont essentielles afin d'éviter le pire. C'est justement l'événement qui est arrivé hier. C'est-à-dire comment on va combattre par ça. Donc, ou soit à ces extrêmes-là, qui sont, vous l'avez dit, donc je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, c'est du nazisme. Donc, le nazisme est clairement présent sur le sol français, minoritaire. Mais ça commence toujours par une minorité qui peut. Et il n'y a pas eu de grondement, il n'y a pas eu de violence envers cela. Donc on va dire que leur parole est légitime. Mmh. Elle est entendue et elle va être entendue davantage, je crois. Ça, c'est, bon, je ne suis pas devin, donc je ne vais pas m'avancer. Hein. Et donc, on a deux choix. Si vous, soit on leur fait la guerre, ou soit on fait semblant qu'on fait mine de rien qu'ils sont là et on reste clos chez nous. Comme ce qui s'est passé en Allemagne nazie, c'est-à-dire que la trois quarts de la population des Allemands à l'époque savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait, savait également qu'il y avait des camps de la mort, etc., qu'il y avait en Pologne, etc., les gens savaient, mais ils restaient chez eux. Ils faisaient mine de rien, voilà. Sachant qu'il y avait des choses également de cachées, parce que c'était un régime autoritaire, voilà, il y avait un contrôle, et puis il y avait des propagandes, et puis forcément il y avait des cachets, parce que les camps de concentration de la mort ont été découverts plus tard par les Russes et par les Américains. Mais bon, il y avait quand même des on-dit, des rumeurs, etc., donc voilà, qui circulaient. Donc, et pour finir, je ne veux pas, surtout pas donner comme pour responsable les élites, c'est-à-dire ceux qu'on a élus malgré tout. Hein, bon, bah, voilà, on est, c'est-à-dire que chacun, nous sommes responsables. C'est-à-dire que là, c'est la servitude volontaire.
Chacun, on est.
Pour conclure, par rapport à ce que je dis, donc oui, effectivement, on est tous une part de responsabilité, tous la même part de responsabilité, c'est-à-dire on accepte tout plus ou moins, alors qu'on a le choix de d'abord de s'indigner, tous, donc une prise de conscience, ce qu'on fait aujourd'hui, et l'utilité des cafés philo, et donc ça c'est essentiel, c'est une excellente action, et après, voilà, après se mettre en action, et puis former des mouvements, quoi, c'est-à-dire, voilà, c'est bon, on va voir comment ça va se développer à la suite. Mais ce qui s'est passé évidemment hier, c'est-à-dire, comment va-t-on réagir? Va-t-on continuer à travailler au jour le jour, continuer à notre vie quotidienne? C'est tout à fait honorable. Ou alors, commencer à réagir? Bon, chacun à son niveau, à ses moyens, etc. Avec ses moyens, ses niveaux, de toute façon, voilà. Ce qu'il peut, quoi.
Merci. Juste un petit point, je pense que vous avez ouvert une perspective qu'on avait un petit peu laissée de côté, même si je crois que vous avez entrevu cette perspective, sur la question de la démocratie sociale. Vous avez fait référence à Marx qui pense la révolution française comme une révolution bourgeoise, qui fomentée par la classe bourgeoise qui est limitée dans sa volonté de puissance et d'expansion par le système institutionnel qui est... Voilà. Et Marx, comme vous savez, c'est le début du manifeste du Parti communiste, Marx et Engels, en 1848, fait cette analogie. En gros, dans l'Antiquité, on avait un rapport d'esclavagisme, donc le rapport du maître à l'esclave. On passe au féodalisme, le rapport du serf à son seigneur. Et très logiquement, on passe après cette révolution bourgeoise à un système capitaliste, pour parler dans la langue de Marx, où finalement le maître, l'esclave, le serf et le seigneur et le serf deviennent un rapport de classe qui prend la forme d'un bourgeois et d'un prolétaire. Et que finalement, rien n'a changé, d'accord ? Sinon la forme du système politique, esclavagisme, féodalisme et démocratie représentative. Pourquoi est-ce que rien n'a changé? Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, alors c'est soit ce que vous disiez, la nature humaine, enfin, cette volonté de puissance, et ce qui relève ensuite, ce qui n'a rien à changer, parce qu'en fait, la structure économique d'exploitation de l'homme par l'homme, pour parler comme Marx, reste toujours présente. Et que tant qu'il y aura de l'exploitation de l'homme par l'homme, en fait, on pourra nous faire toutes les déclarations des droits de l'homme et des droits humains que l'on voudra, on en restera dans un système qui, profondément, ne donne pas au peuple sa propre voix.
On ne tue pas les esclaves, etc., parce qu'ils ont plus ou moins rien travaillé. Et disons qu'il y a une résignation.
Je rappelle que dans le droit français, le contrat de travail est un contrat de subordination.
La résignation,
l'employé est subordonné à son employeur.
Je trouve que la résignation de l'esprit humain, je trouve que c'est quelque chose qui... C'est un problème qui est quand même... C'est important.
Quand même. Oui, vous parliez, vous évoquiez
de se résigner.
La question de la servitude volontaire.
Se résigner, la résignation. Ouais.
Madame, oui.
Oui, j'ai oublié que
À l'intérieur de la Chine, on est un pays démocratique. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, on dit que la Chine, c'est un pays démocratique. Et par rapport à pourquoi, je me posais une question, pourquoi la Chine, il n'y a pas de démocratie? Si c'est le problème d'éducation, on a l'éducation, on a l'éducation de démocratie. On dirait que la Chine, le pouvoir, c'est pour les populations, c'est une république de population de la Chine. Et on a beaucoup...
République populaire, oui.
Oui. Après, on a une politique, c'est une discipline de notre PAC. Pour examen, on a des droits à voter à 18 ans pour tout le monde. Et il a bien expliqué que tout le monde a le droit. Parce qu'il y a trop de monde en Chine, c'est la démocratie directe, c'est impossible. Alors on a changé d'autres démocraties indirectes. Si c'est tout ça, c'est un mensonge. Et Xi Jinping, c'est vraiment un dictateur, mais il a bien fait. C'est un dictateur très fort. Il est vraiment un mensonge, un menteur qui est très fort, parce qu'il a supprimé toutes les informations entre le lien entre occidentaux. On n'a pas le Google, on n'a pas le Facebook, on n'a pas Instagram, on a toutes les applications occidentaux, on n'a pas ça. Après, il a supprimé l'histoire de Tiananmen, la manifestation de Tiananmen, et les gens, l'écrivain qui a obtenu le prix du paix, Nobel, le prix du paix, il a été en prison, et je sais pas, il était mort en prison, mais il a la première personne qui a obtenu le prix de Nobel pour le paix, pour la démocratie, pour proposer la démocratie en Chine. Il était mort dans la prison et il a tout supprimé, cette histoire. On ne savait pas, quand j'étais en Chine, ce personnage qui est si important dans l'histoire de démocratie, je ne savais pas. Et il a supprimé toute l'histoire par rapport les Chinois qui contre pour la démocratie. Mais par contre, j'étais déjà au Tibet. Avant le Tibet, il était pas d'accord avec notre président Xi, mais maintenant, même si dans la maison des habitants qui est à Tibet, il y a des affiches d'une très grande tête de Xi, de président Xi, Xi Jinping, il y a des images, il y a des photos qui est très très grandes, dans la rue et partout. Et je comprends pas pourquoi il a le Tibet accepte cette dictateur s'il y a du conflit avant, mais il a tous accepté. Moi, je comprends pas aussi. C'est une question.
Sachant que nous avons aussi des cadres d'Emmanuel Macron partout dans toute la mairie, parce que c'est assez faible.
Et qu'on est condamné si on a le malheur de décrocher le portrait du président. Madame, vous avez peut-être une dernière intervention, parce que je...
Alors là, j'ai derrière moi, c'est pour ça. Mais...
Oui, madame et madame. Ouais. J'ai l'impression que les micros sont en fin de parcours aussi.
Du coup, je voulais juste dire, par rapport à la question de la démocratie, ça me semble être quand même assez flou de savoir si on est ou pas, et c'est plus la question du glissement. Du coup, on est encore en démocratie, et selon quoi? Imaginons qu'il y a, je sais pas moi, 2 ans ou quoi, on aurait défini qu'est-ce qu'en tant que citoyen on est prêt à accepter de ce qu'est la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, si on regardait ça, on aurait accepté, enfin, ce qu'on avait accepté, ce qu'on n'aurait pas accepté à l'époque et tout ça. Enfin, justement la question de la résignation, c'est pas sûr.
Est-ce que vous auriez des exemples en tête?
Je pensais plutôt par rapport au Covid, parce que j'avais entendu ça. Peut-être qu'avant le Covid, ça nous aurait semblé impensable d'être enfermés chez nous et qu'après, on l'a accepté. Mais l'état d'esprit qu'on avait pu avoir avant un certain nombre d'événements et aujourd'hui n'est pas forcément le même. Et peut-être qu'aujourd'hui, on accepterait plus de choses par rapport à cette époque. Donc voilà, c'est juste un petit
point. Ce que j'avais en tête, c'est ce qu'on appelle les démocraties, pardon, je vous laisse la parole dans un instant, illibérales ou autoritaire, comme celle de Viktor Orban en Hongrie, où Orban est élu, hein, ou Erdogan, d'une certaine manière, en Turquie, il y a une élection qui se joue en ce moment, où il y a bel et bien une élection avec une opposition, mais le parti au pouvoir ou le dirigeant au pouvoir impose une, même pour la Pologne, une conception de la vie publique en matière de mœurs, en matière de, enfin, de différentes matières religieuses, qui exclut un certain nombre de certaines catégories de la population. On est dans une démocratie, mais avec une dérive autoritaire, une dérive illibérale. Et aucun pourrait dire que en France, on irait vers cette tendance à l'autoritarisme, de répression policière, de tel ou tel type de manifestation, écologique, anti-retraite, etc. Madame.
Alors moi, en écoutant tout ça, effectivement, depuis le début, moi j'ai l'impression que notre monde, quelque part, il a été donné, tel que, et que les cycles n'ont pas cessé de se répéter exactement de la même façon, en mettant depuis le crise jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes structures, quelque part, avec des mots différents qu'on a donnés, mais que malgré tout, l'être humain a cheminé en contactant une vérité intérieure très profonde, chacun différente d'une personne à l'autre. Nelson Mandela, il a tiré une vérité intérieure très profonde de ce qu'il a, de son cheminement en prison, qui n'a juste rien à voir avec les gens qui l'ont mis en prison, etc. C'était de lui par rapport à lui. Et moi, je pose la question, est-ce que ces épreuves qui sont quelque part, entre guillemets, un peu répétitives, ces épreuves qui sont données aux hommes par ces histoires de démocratie, d'antidémocratie, enfin, c'est les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes choses. Mais la grosse différence, c'est que l'être humain chemine dans son cœur avec ces épreuves-là.
Pour contacter une vérité qui n'a rien à voir avec ce qui se joue. Et est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? Parce que souvent, quelque part, les données, ils changent encore. On change
carrément de paradigme, en fait.
Oui, pourquoi ?
Mais en même temps, ça a permis à chacun de cheminer vers sa propre vérité intérieure, bon an, mal an. Je pense à des gens comme Martin Luther King.
Avec une liberté, voilà, c'était vraiment des vérités très profondes. Ce ne sont pas des vérités polémiques, ou des vérités, mais un secteur très très profond. Et c'est ça qui nous est peut-être demandé à chacun de contacter dans notre vie, peu importe les conditions extérieures, d'un monde qui est quelque part donné et qui tourne un peu en rond.
Et puis pour reprendre votre sujet, Mandela, il a opéré sa révolution intérieure, c'est-à-dire qu'il est emprisonné parce qu'il est terroriste et qu'il prône l'action violente. Et il sort de prison en tant que militant non violent, pacifique, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il serre la main, vous voyez cette photo, là, très célèbre, il tend le bras, il serre la main au président de Klerk de l'époque, en disant, écoutez, on va construire l'avenir de l'Afrique du Sud ensemble.
C'est pas ça le cheminement, en fait. Il n'y a pas tous ces éléments qui sont extérieurs, qui sont les catalyseurs de l'être humain, de sa vérité.
Oui. Donc on s'était posé la question, finalement, de savoir à partir de la manifestation des groupuscules identitaires et, on peut dire, néo-nazis, qui s'est tenu un 8 mai. 8 mai, quand même.
Oui.
Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Non, mais de fait, hein, ils s'en réclament. Ils s'en réclament explicitement, donc c'est même pas. C'est descriptif, hein, c'est pas. Non, mais c'est descriptif, c'est pas. Il n'y a pas de jugement de valeur. Savoir finalement si la démocratie peut tolérer, cohabiter avec des ennemis de la démocratie. Et moi, il me semble que ce qui s'est joué ce soir, déjà, c'est un bel exercice démocratique. Puisque les opinions diverses et même contradictoires ont pu s'exprimer de la manière la plus apaisée possible, en s'écoutant, en se répondant, en argumentant, en débattant. Comme quoi, la démocratie, ce n'est pas qu'un vain mot. Et finalement, ce qui s'est joué ce soir, me semble-t-il, c'est qu'il y a une sorte d'inversion progressive qui s'est déroulée entre le début de notre débat et puis jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'au départ, les ennemis de la démocratie sont ceux qui mettent en danger la démocratie parce qu'ils sont aux marges de la démocratie. Ils sont aux marges de la démocratie, soit parce qu'on les met aux marges de la démocratie, on les considère comme des marginaux, on les marginalise, soit parce qu'ils se mettent aux marges de la démocratie en ne se reconnaissant pas dans un système qu'ils jugent imparfait, injuste, d'exploitation, et qu'il faut renverser pour mille et une raisons. Soit pour des raisons ultra-conservatrices, soit pour des raisons progressistes, peu importe. Et finalement, comme si on pouvait identifier ces marges, et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces marges. Et puis, finalement, certaines de vos interventions, il m'a semblé que les ennemis de la démocratie, ce ne sont pas les marges, les démocraties sont au cœur de la démocratie, enfin, de ce qu'on appelle, ce qu'on appellerait, avec plein de guillemets, la démocratie, ce système social et politique qui rend au peuple la voix qui lui appartient, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, l'expression de la volonté générale, dit Rousseau, et que finalement, le système serait vicié, biaisé dès le départ, dès l'origine grecque, soit par une humanité qui ne serait pas psychologiquement à même finalement d'entendre des voix discordantes et de faire place à l'autre, par une sorte d'aveuglement sur la volonté de puissance, soit par un système économique qui renforce et maintient les inégalités sociales qui sont strictement contradictoires avec un idéal démocratique, soit par des conditions, cette fois-ci peut-être plus contingentes, de liberté fondamentale qui seraient malmenées parce que captées par des élites médiatiques, économiques, culturelles, politiques, cette bourgeoisie, entre guillemets, si jamais ça avait un sens, qui se reproduit et qui renforce ces inégalités. Je rappelle qu'en France, nous sommes le pays qui accueille sur son territoire l'homme le plus riche du monde et la femme le plus riche du monde. Bernard Arnault et Madame Bédan. Nous avons les deux. Félicitations. La femme est
Je veux dire, pardon,
l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, président de LVMH. La femme la plus riche du monde, dernier classement 2023, Madame Bettencourt, Liliane Bettencourt, présidente de L'Oréal. Sa fille. Voilà. Donc nous avons l'homme et la femme la plus riche du monde dans un système qui a fait la révolution. Voilà, mais il me semble voilà là c'est un peu là, je veux dire la position moi qui me semble tout à la fois soutenable et bon, c'est un constat comment ne pas être d'accord et en même temps que je trouve un peu pessimiste. Et il me semble qu'effectivement, la démocratie, c'est davantage, c'est plus qu'un, c'est ce que j'ai à un moment donné évoqué, c'est peut-être plus qu'un système politique, c'est une organisation sociale, c'est un type d'éthos, comme, pour parler comme sociologue, c'est une forme de rapport à l'autre, pour parler comme. C'est un esprit, pour parler comme Montesquieu, qui fait en sorte d'accepter le désaccord, le dissensus, pour parvenir non pas à un accord, il n'y a pas d'accord, il y a des majorités, il y a des minorités, il y a des. Voilà, mais pour parvenir non pas à un accord, mais pour parvenir à un consensus. Et le consensus, ce n'est pas l'accord. Le consensus, c'est je reconnais que la voie que j'ai émise est peut-être en ce moment et aujourd'hui, là maintenant, minoritaire, en tout cas, elle n'est pas entendue, elle a été entendue, mais elle n'est pas suivie. Mais je reconnais la légitimité de l'expression populaire et je reconnais donc que celui ou celle dont la voix a été reconnue comme étant la plus à même d'être suivie, soit légitime à gouverner. Et finalement, il me semble que cela, ça travaille, ça repose sur ce que vous avez évoqué, sur l'éducation. La démocratie, ça commence dès le plus jeune âge. La démocratie, c'est un esprit grâce auquel ou par lequel on va éduquer les enfants. On n'a pas envisagé cette piste. Peut-être que les ennemis de la démocratie, ce sont les parents. Mais c'est pas une provocation. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'éducation qui sont plus ou moins favorables, qui favorisent plus ou moins cet état d'esprit démocratique. On peut très vite aller vers une sorte de rapport de pouvoir, d'autorité, y compris les parents et les professeurs, y compris dans un établissement comme le mien. Donc par l'éducation, par une information qui serait réellement libre, indépendante de toute forme de pression et qui puisse faire valoir des opinions, par une information qui puisse aussi, ça n'a pas été forcément évoqué, s'appuyer sur des faits que l'on puisse authentifier en tant que tel. Et vous voyez bien que l'ennemi ou l'un des ennemis de la démocratie prend aussi peut-être aujourd'hui pour nous maintenant le visage de l'intelligence artificielle. Quid de la démocratie lorsqu'un chat GPT peut vous générer des textes extrêmement bien argumentés mais qui reposent sur des erreurs ou des inventions? Quid de la démocratie lorsqu'un logiciel comme Midjourney, qui est un logiciel de génération d'images, peut, à partir de quelques mots-clés, générer des images, j'ai vu ça sur là très dernièrement, générer des images complètement fausses mais que une personne comme moi qui n'est pas compétente ne pourra pas déceler comme étant fausse. Et finalement, on voit bien que la démocratie, ça repose aussi sur la capacité d'authentifier, de distinguer le vrai du faux, le réel de l'irréel. À partir du moment où... et là, on est même plus dans une propagande, on est dans l'incapacité, voilà, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, on est dans les fake news, on est dans la post-vérité, dans les vérités alternatives d'un Donald Trump. Et ce que vous disiez, je termine là-dessus, c'est peut-être que l'ennemi de la démocratie, s'il y en a un, je pense que c'est ici, là, que l'ennemi de la démocratie, c'était votre expression, extrêmement pertinente, l'ennemi de la démocratie, c'est peut-être chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous dans notre rapport à l'autre, et chacune d'entre nous dans notre absence de vigilance. Et vous évoquiez, je termine, vous évoquiez la Boétie et le discours de la servitude volontaire. Ce que nous rappelle ce jeune philosophe, il a une vingtaine d'années lorsqu'il écrit ce pamphlet, la Boétie, donc on est au XVIe siècle, c'est le discours du contre-un, contre le tyran, c'est que le tyran n'est debout, pour reprendre la fameuse formule de la Boétie, le tyran ne se tient debout que parce que nous acceptons d'être à genoux. Et finalement, l'ennemi de la démocratie, c'est notre servitude volontaire, c'est notre, vous avez parlé de résignation, ou d'indifférence. Soit c'est une résignation, c'est un mot fort, c'est à quoi bon, soit c'est un déni, vous l'avez évoqué, démocratie façade, soit c'est de l'indifférence. De l'indifférence, c'est bon, là-bas, c'est pas pour moi, moi ça va, toi, peut-être. Je voudrais juste terminer par un petit conseil, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un tout petit texte très court, qui s'intitule, alors je ne me rappelle plus l'auteur parce que c'est de mémoire, qui s'intitule Matin Brun. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Matin Brun. C'était un petit pamphlet qui avait été publié en 2002. La date, on peut la donner, parce qu'en fait, c'était écrit par monsieur, je dirais voir la référence, au lendemain de ce coup de tonnerre politique en France, c'est-à-dire la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour des élections présidentielles de 2002, lorsque Lionel Jospin... Matin Brun repose sur une sorte de petit apologue très très célèbre. On est dans une société comme la nôtre, et puis un beau jour, on a un gouvernement, une autorité qui décide de manière totalement arbitraire d'exclure, d'abord d'identifier, de classer, de documenter, ensuite d'isoler, et ensuite d'exclure, et ensuite d'exterminer les chiens qui auraient le pelage brun, je crois que c'est ça. Je ne me rappelle plus la couleur. C'est ça ? Ouais, les chiens bruns. Et puis, les propriétaires de chiens bruns se posent bien des questions, ils ne sont pas contents, mais enfin, les propriétaires de chiens bruns sur un pays comme le nôtre, il y en a, certes, ils ne sont pas majoritaires. Et puis moi, personnellement, j'ai un chat. J'ai un chat gris. Moi, franchement, les chiens bruns, je m'en fiche un petit peu, quoi. Et puis, vous voyez, c'est ça ce que... Vous comprenez la logique, je ne vais pas forcément tout raconter. Et finalement, la leçon, c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui décide, à un moment donné, de prendre fait et cause contre les chiens bruns ? C'est-à-dire que même si je suis propriétaire d'un chat gris, même si je n'ai pas ni chat, ni chien, ni rien, enfin voilà, je devrais m'alerter, moi, qui ne suis pas concerné, par cette disposition autoritaire qui, etc., jusqu'à ce que... Et finalement, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que l'ennemi de la démocratie, c'est l'indifférence, c'est le déni, c'est ce que vous avez peut-être appelé la structure de notre psyché, c'est notre égoïsme, c'est notre jeu, qui fait que finalement, nous laissons les choses se faire, en disant ça ne me concerne pas directement, jusqu'au moment où, lorsque ça nous concerne, c'est trop tard. En toute démocratie, un...